Introduction. À l'inverse du monde moderne, l'appel à l'équanimité avance à pas feutrés. En plus du vacarme, du brouhaha, des intrigues et des luttes intestines qui auraient semblé familières aux contemporains de Sénèque, nous avons les klaxons des voitures, les radios, les sonneries de téléphones portables, les notifications des réseaux sociaux, les tronçonneuses et les avions. Nos problèmes personnels et professionnels nous submergent tout autant. La concurrence fait rage dans notre activité professionnelle. Sur notre bureau, les documents s'empilent et notre messagerie déborde. Nous sommes joignables en permanence, ce qui signifie que les discussions et les nouvelles ne sont jamais loin. Les actualités nous assènent une crise après l'autre sur tous les écrans que nous possédons, et ils sont nombreux. Les tâches quotidiennes nous épuisent et semblent ne jamais s'arrêter. Nous sommes suralimentés et insuffisamment nourris, hyper-stimulés, débordés et seuls. Qui a le pouvoir de dire stop? Qui a le temps de réfléchir? Existe-t-il quelqu'un qui ne soit pas affecté par le raffut et le dysfonctionnement de notre époque? Même si l'ampleur et l'urgence de notre lutte sont modernes, celle-ci est ancrée dans un problème intemporel. En effet, l'histoire montre qu'il n'a jamais été facile de cultiver le calme et d'apaiser l'agitation qui nous habite, de ralentir notre mental, de décrypter nos émotions et de conquérir notre corps. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre, écrit Blaise Pascal en 1654. Au cours de l'évolution, différentes espèces, comme les oiseaux et les chauves-souris, ont adopté des stratégies d'adaptation similaires pour survivre. Il en va de même pour les courants philosophiques séparés par de vastes océans et de grandes distances. Ils ont développé des voies uniques vers la même destination critique, la sérénité requise pour devenir le maître de sa propre destinée. Pour survivre et s'épanouir dans tous les environnements, aussi bruyants et animés soient-ils. C'est pourquoi cette idée de sérénité n'est pas une douce élucubration « New Age » qui serait l'apanage des moines et des sages. En réalité, c'est une nécessité désespérée pour nous tous que nous dirigions un fonds spéculatif ou que nous jouions dans un Super Bowl, que nous menions des recherches innovantes ou que nous élevions une famille. C'est une voie accessible vers l'éveil spirituel et l'excellence, la grandeur et le bonheur, la performance ainsi que la présence pour tous les individus. La sérénité est ce que vise la flèche de l'archer. Elle inspire des idées nouvelles, elle affûte les points de vue et illumine les relations. Elle ralentit la balle pour que nous puissions la frapper. Elle génère une vision, elle nous aide à résister aux passions de la foule, à faire de la place pour la gratitude et l'émerveillement. La sérénité nous permet de persévérer, de réussir. C'est la clé qui déverrouille les idées de génie et qui nous permet à nous, les gens ordinaires, de les comprendre. La promesse de ce livre audio est de vous révéler l'emplacement de cette clé. C'est aussi un appel à faire preuve d'équanimité, mais aussi à la faire rayonner comme une étoile, comme le soleil, dans un monde qui a plus que jamais besoin de lumière. La clé qui ouvre toutes les portes. Au début de la guerre de sécession, il y avait une centaine de plans concurrents pour remporter la victoire et pour désigner les meilleures personnes à nommer à tel ou tel poste. Les moindres batailles faisaient l'objet d'intarissables critiques et éveillaient de dangereuses passions de la part des généraux. C'étaient des manifestations de paranoïa et de peur, de leur égo et de leur arrogance, mais il n'y avait guère de signes d'espoir. Au cours d'une scène emblématique de ces premières heures tendues, Abraham Lincoln s'adressa à un groupe de généraux et de politiciens dans son bureau de la Maison-Blanche. À cette époque, la majorité pensait que la guerre ne pouvait être gagnée qu'au prix de sanglantes batailles décisives dans les plus grandes villes du pays, telles Richmond et la Nouvelle-Orléans, et même potentiellement Washington. Lincoln, qui était un autodidacte de la stratégie militaire qu'il puisa dans les livres empruntés à la bibliothèque du Congrès, étala une carte sur une grande table et pointa du doigt Vicksburg. petite ville endormie du Mississippi, en territoire sudiste. C'était une ville fortifiée, perchée au sommet des falaises du fleuve Mississippi, défendue bec et ongle par les soldats rebelles. Elle contrôlait non seulement la navigation sur cette voie majeure, mais elle se trouvait à la confluence d'autres cours d'eau importants. C'était aussi une plaque tournante pour les voies ferrées qui servaient à l'approvisionnement des armées confédérées et des énormes plantations esclavagistes du Sud. Vicksburg est la clé, annonça-t-il à la foule avec l'assurance d'un homme qui maîtrisait si bien son sujet qu'il pouvait l'exprimer en termes extrêmement simples. La guerre ne peut pas être menée à son terme tant que la clé n'est pas dans notre poche. En l'occurrence, Lincoln avait vu juste. Il lui faudrait des années, il lui faudrait une sérénité et une patience incroyables, ainsi qu'un engagement forcené envers sa cause, mais la stratégie exposée dans cette pièce permit de gagner la guerre et d'abolir l'esclavage en Amérique. Toutes les autres victoires majeures de la guerre de sécession, de Gettysburg à la marche de Sherman vers la mer, en passant par la reddition du général Lee, devinrent possibles parce que, sur l'ordre de Lincoln, Ulysse Grant assiégea Vicksburg en 1863. En s'emparant de la ville, il coupa le Sud en deux et prit le contrôle de cette voie navigable cruciale. De manière réfléchie, intuitive, sans être ni pressé ni distrait, Lincoln avait vu et avait soutenu ce qui avait échappé à ses propres conseillers, mais aussi à ses ennemis. Parce qu'il détenait la clé qui débloqua la victoire sur la rancœur et la folie de tous ses premiers plans concurrents. Dans notre vie, nous sommes confrontés à un nombre apparemment aussi important de problèmes et nous sommes tiraillés dans tous les sens par des priorités et des croyances concurrentes. Des obstacles et des ennemis nous barrent la route dans tout ce que nous souhaitons accomplir, personnellement et professionnellement. Martin Luther King Jr. observa qu'une violente guerre intestine faisait rage en chacun de nous. Entre nos bonnes et nos mauvaises pulsions, entre nos ambitions et nos principes, entre ce que nous pouvons être et toutes les difficultés pour y parvenir. Dans ces batailles, dans cette guerre, la sérénité est le fleuve et la voie ferrée dont tant de choses dépendent. C'est la clé. Pour penser clairement, pour voir l'ensemble de l'échiquier, pour prendre des décisions difficiles, pour gérer ses émotions, pour identifier les bons objectifs, pour venir à bout des situations stressantes, pour entretenir des relations, pour acquérir de bonnes habitudes, pour être productif, pour parvenir à l'excellence physique, pour se sentir comblé, pour profiter des occasions de rire et des moments joyeux. La quiétude est la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. Pour être un meilleur parent, un meilleur artiste, un meilleur investisseur, un meilleur athlète, un meilleur scientifique, un meilleur être humain, pour accéder à tout ce dont nous sommes capables dans cette vie. Cette sérénité peut être la vôtre. Quiconque s'est concentré si profondément qu'un éclair de génie ou d'inspiration l'a soudain transpercé, sait ce qu'est la sérénité. Quiconque s'est donné corps et âme pour une cause, quiconque a été fier de la mener à son terme, de savoir qu'il s'est donné sans réserve, voilà la sérénité. Quiconque s'est avancé avec les yeux de la foule braqués sur lui et a déployé tout son savoir en un seul moment de performance, voilà la sérénité, même si cela implique un mouvement. Quiconque a passé du temps avec une personne sage et avisée et l'a vu résoudre en 2 secondes le problème qui nous a tenus en échec durant des mois, voilà la sérénité. Quiconque s'est aventuré seul, la nuit, dans une rue où il n'y avait pas âme qui vive, alors qu'il neigeait, qui a regardé la lumière éclairer doucement cette neige et qui a été réchauffé par la satisfaction d'être en vie, voilà encore la sérénité.